Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h tout pile sur RMC, la deuxième heure de Roten sans flamme du soir. C'est maintenant avec Benoît Boutron, avec Benoît Costil et avec Christophe Dugarry. On le fait régaler sur la première heure. On remercie encore Pierre Sage de nous avoir bonifié la première heure. Un magnifique débat à 18h.
Ça a mis un peu de gaz.
Et puis surtout, on remercie Philippe. Ah ouais. D'être venu supporter historique depuis plus de 50 ans du Paris Saint-Germain. Magnifique ces histoires. Et on continuera cette opération-là toute la semaine jusqu'à la finale de la Ligue des Champions samedi à 18h à Budapest.
Puis il sera Jérôme pour commenter cette finale sur RMC. Ouais, 18h samedi, événement exceptionnel. Donc grâce à RMC, vous ne raterez rien avec un after live spécial. Donc vous allez vous régaler en direct de Budapest. À 19h45, le quiz. Tous contre Rotel. Le cadeau, c'est une enceinte portable Tamo de Lexon, mini enceinte Bluetooth connectable à l'infini, 3216 touche 4 ou quiz par SMS au 73216. À 19h30, on poursuit notre opération Roten Examinateur. Est-ce que le Stade Rennais a manqué d'ambition cette saison? Rennes a terminé 6e alors que Rennes avait l'opportunité d'aller décrocher la Ligue des Champions. Mais tout de suite, on y va justement sur la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, parce que Didier Deschamps a quelques conseils à donner aux Parisiens pour gérer les coups de pied arrêtés.
John Rice s'élance. Oh, ici le coup de canon et de tradition.
Donc il a fallu que je mette une frappe surpuissante de 35 mètres. Non, je rigole quand je dis surpuissante.
C'est John Rice qui s'élance. Oh,
j'ai toujours besoin du terrain, de cette adrénaline.
C'est encore lui qui frappe ce corner. Ça revient.
Je ne vais pas être plus pragmatique que pragmatique.
Le dégarde, Rice, encore un ballon travaillé.
Le critère numéro 1 est quand même la performance sportive.
C'est Declan Rice qui frappe ce premier corner du pied droit directement.
Fasse attention à ce que je dis. Ça a toujours existé.
RMC, finale de la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Arsenal.
J-4.
On a hâte d'y être à cette finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal à Budapest, samedi à 18h sur RMC. Et pour en parler avec nous, Arthur Perreault est là. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Parce qu'il y a des actus chaudes au plus près des Parisiens. L'inquiétude qu'on avait, deux joueurs sous surveillance.
Pas du tout.
Dembélé et Hakimi. Alors comment ça va pour Dembélé et Hakimi?
Les nouvelles sont plutôt bonnes, puisqu'il y avait donc un entraînement de prévu aujourd'hui à 17h au campus PSG de Poissy, entraînement de reprise, puisque les joueurs ont pu bénéficier de deux jours de repos accordés par le staff parisien. Et donc, c'est bonne nouvelle, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi viennent de participer à l'intégralité de cet entraînement collectif. La séance s'est terminée il y a de ça une bonne demi-heure. On rappelle Achraf Hakimi qui se remet donc d'une lésion à la cuisse depuis cette blessure. L'international marocain s'entraînait intensivement à part du groupe. Il postule donc de nouveau une place de titulaire. Ousmane Dembélé, lui, il était touché au mollet, on le rappelle, lors du dernier match de la saison face au Paris FC. Il avait enchaîné les soins. Il l'avait dit, Jérôme, dans cette émission, qu'il se sentait prêt à 100% pour cette rencontre. Et donc, cela se confirme puisque lui aussi s'est entraîné avec ses coéquipiers. Et tout va bien pour l'attaquant parisien.
Merci Arthur. Excellente interview d'Ousmane Dembélé la semaine dernière, à retrouver sur la chaîne podcast de Roten sans flamme, voilà. Et sur la chaîne YouTube d'ailleurs de Roten sans flamme. Parlons donc d'Arsenal, cette grande force des Gunners sur coup de pied arrêté. 38% des buts inscrits en Première Ligue sur ces phases-là. 18 buts sur corner. C'est un record en Première Ligue. Et puis en Ligue des Champions, Arsenal a inscrit 28% de ses buts sur phase arrêtée. Roten se chauffe ce soir à 4 jours de la finale. Est-ce que cette finale va se jouer sur coup de pied arrêté? 32-16 pour participer avec nous. On va accueillir un spécialiste qui a bossé dans ce domaine, ouais, à Lyon et à Nice, Damien Della Santa, qui est avec nous. Salut Damien.
Salut Damien.
Salut, bonsoir.
Bienvenue. Merci beaucoup, Damien, d'être là.
Merci à vous.
Canet de cœur, t'as vu. Exactement. Benoît Costil et Jérôme Roten briller sous le maillot Canet.
Exactement.
Et voilà, magnifique.
Écoute,
Avant de t'avoir.
Avant de t'entendre, toi le spécialiste, l'avis de la Dream Team, Jérôme, est-ce que, à ton avis, ça va se jouer sur coup de pied arrêté? Est-ce que Paris doit être ultra vigilant dans ce secteur de jeu?
Tu sais, les grands matchs et surtout les finales se jouent sur des détails et à force d'en avoir fait, d'en avoir gagné et d'en avoir perdu, tu sais que ces détails sont encore plus importants le jour de cette finale. Et les coups de pied arrêtés font forcément partie de ces détails-là. Tu peux pas négliger ces phases-là, que ça soit offensivement ou défensivement. Tu sais que ça peut débloquer une situation, un match. Le premier qui marque en finale, alors je dis pas qu'il est sûr de gagner, mais il prend un tel ascendant psychologique que c'est difficile de retourner. Alors il y a eu des contre-exemples, il y en a quelques-uns. Mais la vérité, c'est que généralement celui qui marque en premier, bon, il a de grandes chances d'aller au bout. Et de soulever la coupe. Donc oui, les coups de pied arrêtés sont essentiels. Et quand tu vois l'arme d'Arsenal là-dessus, il faudra être d'autant plus vigilant. Alors ils ont été, et c'est pour ça que je posais la question à Damien juste après l'intervention de Benoît et du gars, mais sur le fait d'avoir performé en Première Ligue, mais un peu moins en Ligue des Champions quand même. Donc est-ce que en Ligue des Champions, il n'y a pas une approche spéciale des entraîneurs adverses?
Aujourd'hui, il y a une différence d'arbitrage aussi. On pourra en parler.
D'arbitrage, ouais. Oui, parce que ils font des blocs. C'est la vérité. C'est vrai, c'est pas la même chose. Mais aussi, il y a peut-être une vigilance un peu plus accrue de la part des staffs qui sont aujourd'hui très développés. Et Damien en a fait partie.
Exactement. Duga, est-ce que tu crains ce secteur de jeu pour les Parisiens?
Il craint rien, Duga d'Arsenal.
Non, je crains essentiellement ça. Moi, il y a deux choses qui m'inquiètent. Voilà, c'est ça, c'est les coups de pied arrêtés, parce que c'est carrément leur point fort, et je pense qu'ils ont une vraie confiance dans ce domaine-là. Et puis, le fait qu'ils soient peut-être libérés après ce titre de champion d'Angleterre, que ça les libère enfin dans le jeu, parce que je les trouve inhibés dans le jeu, je les trouve craintifs, je trouve qu'ils n'arrivent pas vraiment à se lâcher. Alors peut-être que d'avoir remporté ce titre, ils vont réussir enfin à se lâcher et appuyer sur ce fameux bouton qui leur permettrait d'être un petit peu plus ambitieux dans le jeu. Mais après, sincèrement, chaque fois que des problèmes ont été posés au Paris Saint-Germain, Luis Enrique et ses joueurs ont réussi à les anticiper. Donc peut-être qu'ils vont souffrir sur les coups de pied arrêtés, mais ils ont tellement d'autres possibilités
d'atouts.
Ouais. Ils savent tellement faire de choses, ouais, tellement d'atouts, ils savent faire tellement de choses, le Paris Saint-Germain, qu'ils peuvent souffrir sur les coups de pied arrêtés, c'est certain, il va falloir mettre quelque chose en place, parce que je pense que quand tu marques autant de buts sur coups de pied arrêtés, c'est pas un hasard, quand tu mets un record comme ça, c'est vraiment pas un hasard, c'est qu'il y a une vraie façon de les préparer, une vraie façon de le jouer, qui pose des problèmes à l'adversaire, donc il va falloir y répondre, il va falloir une attention particulière, ça c'est sûr. Mais je pense que le Paris Saint-Germain saura répondre à ça et saura quand même malgré tout être dangereux à sa manière. Mais ça va être pour moi essentiellement la façon d'être dangereux pour Arsenal. Voilà, moi j'ai aucun doute là-dessus.
Benoît, toi le gardien de but, le spécialiste d'ailleurs du poste, est-ce que tu es inquiet pour ce secteur de jeu?
Surtout si c'est un gaucher qui tire.
Je pense que le PSG le prépare. Maintenant, c'est vrai que ça fait partie des points forts d'Arsenal. Ce qui m'inquiète légèrement, c'est qu'on sait que ça fait partie de par Safonov, où Safonov n'est pas non plus incroyable dans les airs, et que surtout sur les ballons, je trouve deuxième poteau, je pense que Arsenal aura des coups à faire là-dessus sur les ballons qui arrivent second poteau. On sent Safonov qui est pas très très à l'aise, donc je pense qu'ils vont essayer d'appuyer là-dessus. Et puis t'as quand même un petit déficit de taille. Le PSG a d'autres qualités avec le ballon dans les pieds, le mouvement, etc. Maintenant, pour moi, oui, ça va être un des éléments où Arsenal va devoir appuyer, parce que sinon, je vois le PSG tellement au-dessus footballistiquement, techniquement, que, à mon avis, oui, c'est un des éléments qui sera important et dans ce match.
Damien, le spécialiste du poste, vas-y Jérôme, t'avais des questions.
Damien, oui, on parlait des détails sur ces matchs-là, coup près, sur ces finales. J'imagine que toi, spécialiste des coups de pied arrêtés, tu vas pas dire le contraire.
Non, c'est certain, ce sont des détails. Après, paradoxalement, je mettrai pas les coups de pied arrêtés au-dessus d'autre chose.
Ouais.
On peut poser le problème du match de différentes manières. Est-ce que la défense d'Arsenal, qui est une des meilleures au monde, va résister à l'attaque de Paris, qui est une des meilleures au monde?
C'est la meilleure attaque contre la meilleure défense.
Voilà, donc ça, c'est une entrée du jeu. Est-ce que la défense d'Arsenal va être capable de gérer la vitesse des Parisiens? Et aussi, bien sûr, est-ce que Paris va être capable de rivaliser sur les coups de pied arrêtés sur ce match? Et c'est ça qui est important, parce que les coups de pied arrêtés, il faut les évaluer dans la durée et pas forcément sur un match. Sur un match, il peut se passer n'importe quoi et l'équipe la plus faible même de la Ligue, elle peut marquer contre la meilleure, ouais, ou vice-versa, parce qu'il y a beaucoup de chaos, il y a beaucoup de hasard, il y a 17 personnes dans la surface.
Il n'y a pas un effet psychologique, tu sais que c'est la force d'Arsenal, donc quand tu concèdes un corner ou un coup franc près de la zone, la surface de réparation, est-ce que tu ne te dis pas, oh là là, ils sont très forts?
Je pense qu'il y a, sûrement en Première Ligue, sûrement face à des équipes inexpérimentées, ouais, je pense que Paris a l'habitude de jouer des équipes principalement anglaises, parce qu'ils ont joué Liverpool, ils ont joué, et ces équipes sont quand même toutes un peu plus fortes qu'en France. Ils ont quasiment toujours été capables de rivaliser. On ne le dit pas assez, mais cette saison, et c'est une nouveauté, Paris a été très performant sur CPA. Et c'est nouveau, parce que l'année dernière, ils ont pu gagner la Ligue des Champions en étant assez moyens. Et sur les années précédentes aussi, ils ont même sûrement peut-être perdu des fois, ils se sont peut-être fait éliminer. Cette année, ils ont des statistiques très bonnes. Ils ont performé, ils ont vraiment évolué même dans leur process. Donc, sur le plan de la défense, par exemple, c'est similaire à ce que fait Arsenal. Après, l'attaque... ils ont des statistiques qui sont très bonnes. Ils sont à un but à peu près tous les 19 CPA, là où la moyenne elle est tous les 30, là où les années précédentes c'était tous les 40. Donc ils ont vraiment bien évolué. Ouais. Après, la différence c'est qu'Arsenal cette année, ils ont cassé les records. Ils sont, je crois, un but tous les 13 coups de pied arrêtés.
Et comment tu l'expliques ça?
Tu l'expliques arrêtés, c'est
parce que le travail de, c'est Nicolas Rovert. Hein,
Jovert.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'analyses sur son travail, toi? Qu'est-ce que tu trouves où ils sont performants sur quelle phase en fait?
La force de Nicolas et la force de ce qu'il fait à Arsenal, déjà, c'est un process de 6 ans. Et l'équipe, elle ne cesse de progresser depuis 6 ans. Et d'ailleurs, chaque année, ils battent les records de l'année précédente.
C'est de la continuité, quoi.
Voilà. Donc ouais, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est que tout s'est pas construit en un jour. Et les joueurs, ils ont une réelle intelligence sur ces phases de jeu. Et dans le club, il y a une réelle culture sur ces phases de jeu. Il y a aussi quelque chose qui est très important. C'est que tout est aligné. Et c'est très, avec le staff, avec Mikel Arteta, tout est très aligné. Et ils y accordent une importance. Ils sont très forts. C'est pas le football et les coups de pied arrêtés. C'est tout d'un coup. Et forcément, après un corner, ben, on récupère le ballon. Peut-être on attaque en bloc haut. Ouais. Quand on défend, je sais pas, une touche, c'est un pressing. Et c'est très lié. Et c'est la force, je pense, qu'ils ont à Arsenal. C'est de tout lier. Et lui, il a une vision qui est novatrice, qui est très, très bonne. Il a changé un petit peu la vision des CPA. Il a amené quelque chose de nouveau, de la cohérence. Il va pas prendre des combinaisons sur YouTube et changer chaque semaine. Non, tout le monde sait ce qui va se passer. Tout le monde sait comment ça se passe. Mais l'exécution est tellement bonne qu'en fait, c'est très
bien. Ouais, parce que ça, c'est bonifié. Après, moi, j'adorais ces spécificités-là. Bon, c'était un de mes points forts aussi, les coups de pied arrêtés. Donc, je bossais beaucoup. Alors, nous, à l'époque, on n'avait pas des entraîneurs spécialisés. C'était souvent l'entraîneur adjoint. Même Dugas et Benoît ont dû connaître ça. Donc, après, on se prenait en main. Je me prenais en main. Je répétais les gestes au premier poteau, au deuxième. Le mec qui vient, qui décroche des 5-50 pour être au point de pénalty. Bon, il y a plein de choses, mais c'est très lié dans votre travail, si tu veux, à la qualité de pied du tireur.
Clairement, c'est le travail, c'est d'optimiser la matière première. Mais c'est comme un entraîneur. C'est pour ça que je ne sépare pas ça du football. Oui. Je veux dire, quand il y a des joueurs qui sont petits et techniques, tu ne vas pas avoir le même style de jeu que quand tu as des grands athlétiques qui sont lents. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est pareil. Quand tu as des grands ou des bons tireurs, ou quand tu n'en as pas, ou que tu as des petits en taille, ou des fois des grands en taille, mais qui ne sont pas bons de la tête, parce que ça existe aussi. L'idée, c'est vraiment d'optimiser comment chacun sur le terrain peut apporter et faire quelque chose de cohérent, donc avoir les idées et les transmettre. C'est pas forcément dans la quantité de travail, sans trahir de secret, Arsenal il ne travaille pas beaucoup sur le terrain, mais le process autour d'analyse, de préparation est immense.
Travail, ouais. Mais attends, tu disais il ne faut pas travailler. Je suis désolé, mais les tireurs, t'es obligé de répéter les gammes. Alors après, t'es pas obligé d'avoir le coach des coups de pied arrêtés avec toi. Ce que je veux dire, c'est un geste, c'est une répétition de gestes, en fait.
Parce que
c'est
tu vises des zones, en fait.
Bah, mais si tu répètes pas les gestes, si tu le fais juste pendant les matchs ou une ou deux fois sur les entraînements, je peux te dire que, t'auras pas la même réussite, si tu veux, sur la qualité de pied. Mais ça, c'est sûr, c'est indéniable. C'est pour ça que les nouvelles générations, alors pas que les nouvelles générations, parce que ma génération, ça se passait aussi. Ce que je veux dire, c'est que t'avais beaucoup d'entraîneurs qui disaient, Non, reste pas enfin répéter. Non, on a assez travaillé. Tu sais, ils étaient un peu contre ça. Moi, la question que j'ai, est-ce que vous, dans votre rôle, celui de Nicolas ou le tien, par moment, vous êtes intervenu, parce que moi, j'ai connu ça au début de ma carrière, où, en effet, les coups de pied arrêtés, c'était souvent, si tu veux, le mec un peu plus expérimenté ou le joueur un petit peu technique, tu as le bon pied et tout. Oh, tiens, lui, il va tirer les coups de pied arrêtés. Et puis toi, t'étais un peu en retrait. Est-ce que toi, t'es intervenu déjà, ou même Nicolas, en disant, mais écoute, c'est quoi? toi, tu veux pas les tirer les corners, mais je pense que tu serais le mieux à les tirer. Et je pense que Rice, ça s'est passé comme ça à Arsenal.
Oui, alors c'est tout à fait vrai. Alors il y a deux choses dans cette question. La deuxième partie, c'est que oui, moi c'est du management, c'est-à-dire après il faut manager les aspirations de chacun dans le vestiaire, les capacités, l'efficacité. Moi, j'avais tendance, par exemple à Lyon, à ne pas choisir. C'est-à-dire que il y avait des tireurs potentiels, des fois j'en orientais, et la responsabilité elle appartient aux joueurs, parce qu'après tout, c'est toujours les joueurs qui vont marquer les coups arrêtés, qui vont.
Oui, mais c'est bien défendre. De pousser les
donc
mecs
moi,
qui veulent pas trop.
Et par rapport à ça, j'ai une anecdote à Nice. Andy Delors, il avait jamais frappé les coups francs directs. Et un jour, je vais le voir, ce serait bien, on en discute, on travaille, et il a marqué, il avait 31 ans, peut-être à l'époque, son premier coup franc direct.
Ah ouais, il ne frappait jamais.
Ouais. Okay. Il ne frappait pas avant.
Okay. Il frappait
et donc, des fois, tu vois le potentiel, tu dis, on l'a pour le mettre.
Tu n'as pas
place.
Des prédilections de voir un droitier frapper de la gauche vers la droite, ou ça, rentrant, sortant, il n'y a pas de différence.
Des croyances et de la cohérence. Moi, j'ai mes propres croyances, mes propres. Ouais, c'est des croyances, mais il y a des équipes qui sont performantes avec
à l'inverse.
Donc, c'est de la cohérence.
Et toi, c'est quoi tes croyances?
Moi, je. Par rapport au contexte où j'ai travaillé, j'ai jamais été dans des contextes avec des joueurs très, très bons, très dominants dans les airs.
D'accord.
Donc j'avais tendance à demander à mettre le ballon plutôt proche du but. Il y a beaucoup organisé des deuxièmes ballons. Si je prends à Lyon, les joueurs Mikotadze, Lacazette, Thiago Almada, c'était pas des grands. Donc il fallait travailler différemment. Ça nous empêchait pas d'être performants, mais c'était une autre manière d'attaquer que.
On est avec Damien Della Santa, spécialiste des coups de pied arrêtés, qui est passé donc par Lyon et par Nice. Vous venez de l'entendre. Duga, comment on bossait toi à ton époque les coups de pied arrêtés? Est-ce que c'était travaillé? Est-ce que c'était un domaine un peu négligé?
C'était travaillé de plus en plus, mais le football a tellement changé avec les data, avec les staffs qui se sont tellement étoffés, c'est plus du tout le même football, c'est incomparable, mais je trouve qu'aujourd'hui il y a des outils pour justement préparer les coups de pied arrêtés, les data, les volumes de course, les courses à haute intensité, en tout ce qui va avec, c'est quelque chose d'assez global. Je trouve que c'est assez génial, quoi. Je trouve que ça donne des éléments pour pouvoir travailler de la meilleure des façons possibles. Donc c'est pour ça que je pense que, je pense que l'exigence que l'on doit avoir pour le football va aussi avec la nouveauté et la modernité qui se crée aussi. Je pense que le football c'est certainement amélioré d'une certaine manière, notamment sur le plan physique, mais pas forcément sur le plan technique. Et je pense qu'on a peut-être aussi abandonné ce modèle-là aussi de penser. Les data, tout ça, c'est très bien pour courir, pour le volume de course, mais peut-être qu'on a mis un petit peu trop. Peut-être que je me trompe, mais c'est le sentiment que j'ai, la sensation que j'ai. L'aspect technique, l'aspect individuel, où je trouve que le jeu de tête, par exemple, je trouve que le jeu de tête globalement est assez catastrophique.
Ouais. Damien, t'es d'accord?
Mais que ce soit des jeux de tête, alors il y a plusieurs façons de faire des têtes. Il y a des jeux de football, des jeux de tête de déviation, d'attaquants, de défenseurs. Il y a plein de façons de faire des têtes. Mais je vois certains joueurs sauter et faire des têtes. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont jamais vu une tête de leur vie, quoi.
Franchement, c'est
un problème pour toi, pour ton travail.
Mais justement, faut aimer le jeu de tête. 100% d'accord. Et aujourd'hui, dans les centres de formation, on fait beaucoup de jeux courts, des petits espaces, etc. On développe pas forcément de tireurs. On développe pas de joueurs de tête.
Bien sûr.
Et contrairement peut-être à ce que tu disais, aujourd'hui, les joueurs, il faut pas les freiner, il faut les pousser. Non, c'est bon, je sais tirer, j'ai pas besoin. Non, j'ai pas besoin de. Et moi, j'ai plus eu à ramer pour faire travailler les joueurs
c'est grave.
Que à les freiner.
Je te parlais de ma génération.
Ouais, c'est ça.
Donc aujourd'hui, c'est fou ce que tu me dis parce que franchement, de là à se dire, parce que c'est vraiment une valeur ajoutée en fait. Ouais. Mais même déjà pour le collectif, parce que tu penses collectif dans un premier temps. Regarde Arsenal, ils sont champions pas que grâce à ça, mais aussi parce qu'il y a une grande part de réussite sur les coups de pied arrêtés en première ligue. C'est la vérité. Ça. Et surtout, après, ça bonifie le joueur individuellement. Parce que Duga, tu parlais, et t'as raison. Aujourd'hui, c'est les datas, c'est les courses, c'est le volume, les courses à haute intensité, c'est ceci, c'est les passes réussies, tu vois, la fameuse passe réussie, tu vois. Mais n'empêche que
et on a découvert la meilleure équipe sans ballon.
En plus, ça c'est nouveau. Ça.
Écoutez le podcast.
On n'est pas au bout de nos surprises là-dessus, ça c'est sûr. Mais n'empêche que le côté technique, l'amélioration, et encore une fois, je te le dis, ça bonifie le joueur individuellement. Moi, tu sais, au début de ma carrière, et je vais pas, c'est pas, pas parce qu'il m'a dit ça que ça doit se passer comme ça aujourd'hui. Mais j'ai un entraîneur qui était mon formateur, c'était Pascal Théo. Et un jour, moi, quand j'étais jeune, en effet, je tapais pas trop les coups de pied arrêtés. Tu vois, j'étais dans mon coin, je faisais mes trucs avec mon pied gauche et tout ça. Il m'a pris en dehors, et je devais avoir 16 ans. Il m'a dit, toi, toutes les équipes dans lesquelles tu vas jouer, tu tires tous les corners, tu tires tous les coups francs rentrants, parce que c'est une arme que tu dois travailler et c'est avec ça que tu vas faire ta carrière. T'imagines, à 16 ans, il m'a dit ouais, ça, j'étais pas pro. Hein. Ouais. Et je peux te dire que j'ai même galéré. Et au fur et à mesure, c'est vrai que je prenais mes responsabilités à force de répéter. Alors, j'avais des exercices bien précis pour travailler la hanche, tu vois, le pied, pour lâcher tout ça. Et franchement, aujourd'hui, mais même pas en rêve, tu fais ça aux gamins, en fait. Tu vois, quand j'ai l'opportunité d'avoir des entraînements au niveau pro ou même au niveau amateur, des fois je chope les gamins comme ça et je leur dis mais travaillez comme ça. Ils te disent mais c'est quoi cet exercice? Mmh. Eh ben écoute, travaille-le tous les jours, tu vas voir qu'au bout d'un moment tu vas y arriver.
Damien, question plus spécifique sur la finale qui nous attend samedi. La crainte des Parisiens, c'est de voir Safonov un peu chahuté dans sa zone comme ça, parce qu'on sait qu'il est parfois en difficulté sur ce secteur de jeu, sur les sorties aériennes, sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu encaisser quelques buts dans ces situations-là. C'est la force d'Arsenal. Si t'étais à la place de Nicolas Jovert à Arsenal, tu insisterais là-dessus, tu dirais ce qu'il faut, c'est aller embêter ce gardien Safonov dans sa zone?
Non, je pense que je suis pas à la place de Nicolas, mais je pense que ils ont un process qui est clair et je pense pas qu'ils s'adaptent un petit peu à l'adversaire, mais je pense pas que ce soit outrance. Vous avez joué des gros matchs et dans ces gros matchs, c'est pas le moment de changer. Quand on joue des matchs en jeu, le but c'est que les joueurs ils soient le plus libres, qu'ils s'expriment, qu'on leur prenne pas la tête. Donc je pense pas que ce soit le match où on va tout changer, tout révolutionner. Mmh. On va donc bien sûr Paris, j'ai vu sur les réseaux prépare, mais faut être honnête, c'est pas la seule équipe qui embête les gardiens à Arsenal. Moi à Lyon on le faisait, il y a plein de clubs qui le font. Donc ils l'ont préparé parce qu'ils font bien leur travail et ils sont efficaces hein, défensivement Paris cette année, c'est bien ce qu'ils font. Mais je pense pas qu'ils aillent chercher ça parce qu'on
a fait des articles à RMC Sport là-dessus hein, sur le fait que le PSG travaillait ça, essayait de chahuter un peu Safonov comme ça dans la zone de sortie
parce
au moment
vidéo,
des corners
pendant le quart d'heure qu'a fuité.
Ouais, exactement, t'as raison. Et Benoît, toi ton avis de gardien, est-ce que c'est ça qui te fait peur pour Safonov?
Lui, je lui mets un corner direct.
C'est peut-être la carence du gardien russe.
Apparemment, ils n'ont pas un Jérôme Breton Arsenal sur le terrain. Donc ça va, Safonov peut dormir tranquille. Ouais. Non, mais après, c'est Damien le spécialiste. C'est Damien qui sait par rapport aux spécialités des coups de pied arrêtés. Moi, j'aurais pensé au départ qu'effectivement, ça pouvait être une solution et une stratégie. Damien dit que non, donc j'ai envie de lui faire confiance. C'est lui l'expert. Mais maintenant, si c'est vrai que Arsenal a des certitudes à ce niveau-là. Ils sont hyper performants là-dessus. Et donc je suis curieux de voir comment va se comporter le PSG par rapport à ça et Safonov aussi.
Est-ce que la finale va se jouer sur les coups de pied arrêtés? On en débat avec Christophe, supporter parisien qui est au 32-16, Jérôme.
Salut Christophe.
Salut Jérôme, salut la team.
Bienvenue Christophe. Bon alors, bienvenue. Qu'est-ce que tu penses de notre débat sur les coups de pied arrêtés? Est-ce que toi tu flippes en tant que supporter parisien?
En toute honnêteté, en toute franchise, pas du tout. Pas du tout. Je te dis la vérité, c'est une équipe qui est vraiment forte sur coups de pied arrêtés, il n'y a rien à dire, ça, on le sait tous. Mais quand tu regardes leur parcours en Ligue des Champions, Sporting, Leverkusen, Atlético Madrid, un coup de pied arrêté, il n'y a pas eu photo, ils n'ont rien fait du tout. Je ne dis pas que face à nous, sur un match, ils ne vont rien faire.
C'est une finale, et voilà.
Mais je pense, et comme j'ai dit à ton collègue, je lui ai dit, si Paris joue son jeu, franchement, coup de pied arrêté ou pas coup de pied arrêté, je vois. Et j'ai dit, il n'y a rien en face, quoi, en fait. Il n'y aura rien en face. Et je ne dis pas ça en tant que Parisien, mais en tant que.
Ah, t'es de la vie, t'es de la team Christophe Dugarry là-dessus, quoi. T'es pas du tout inquiet, tu dis qu'il y a une différence de niveau.
Non, mais il y a une différence de niveau, t'as raison, Christophe.
On reste toujours inquiet parce que c'est une finale et ça se joue sur un match. Il suffit qu'il marque le premier, qu'il bloque, et voilà, on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri de ça. Mais quand je vois les possibilités qu'ont le PSG et ceux d'Arsenal, il n'y a pas photo. Arsenal, tu me parles d'une équipe qui fait que des coups de pied arrêtés. Tu me parles d'une équipe qui, oui, joue en contre-attaque, oui, qui déporte un petit jeu. Parce qu'avant Arsenal, c'était un beau jeu, c'était vraiment quelque chose de beau. Actuellement, c'est pas très beau, c'est plutôt efficace. Donc, ouais, il n'y a pas de problème. Mais coups de pied arrêtés, non, ça ne me fait pas peur. Bon, si on s'en prend un, on s'en prend un. Mais je ne pense pas qu'on va s'en prendre 10-15.
On n'espère pas, mais c'est vrai que c'est une arme. Alors après, moi je fais, toi t'es plus de l'avis de Duga où tu vois une vraie différence entre les deux équipes. Il y a une différence, le PSG est sûr de sa force et puis c'est le champion d'Europe en titre, il n'y a pas de problème. problème. Après, il faut pas quand même minimiser le gros travail défensif d'Arsenal.
Arteta, il a dit, on va être champion d'Europe.
C'est vrai.
Bien sûr. Non, je ne minimise pas. Bien au contraire, respect à eux. Ce qu'ils ont fait, c'est très très fort. Mais pour revenir à ce que je te disais, parce qu'on a parlé de la première ligue, d'accord? Là, c'est la Ligue des Champions. Quand tu vois en huitième, si je me trompe pas, ils jouent Leverkusen. Ils font 1-1, 1-0.
C'est vrai.
Il n'y a pas eu de coup de pied arrêté. Quand tu vois Sporting, 1-0, 1-1, ou quelque chose comme ça. Tu vois, je te dis pas que ça peut pas arriver en finale, ça peut arriver. Ils peuvent nous en mettre un ou deux, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur.
C'est vrai.
Je me dis que tu vois, Paris, ils ont les armes. Ils peuvent faire plus. Si tu te manges un but sur coup de pied arrêté, tu vas pas t'en manger 10.
Non, c'est sûr. Après, c'est plus sur le contexte. C'est ce qu'on disait avec Damien tout à l'heure. C'est le contexte, c'est la finale. Le premier qui marque, tu vois, ça, c'est l'expérience qui parle. Mais encore une fois, c'est pas parce que t'encaisses le premier but que automatiquement tu vas perdre. Mais ça te donne tellement un avantage psychologique
que
c'est toujours important. Et c'est vrai que
surtout avec la défense d'Arsenal, c'est
pour ça. C'est pour ça, tu vois, ça peut les renforcer, plus le fait psychologiquement aussi d'avoir été libéré, enfin d'avoir gagné un titre depuis plus de 20 ans. Bah écoute, tout cet aspect-là, si tu veux, qui peut expliquer aussi le spectacle ou les contre-perfs, entre guillemets, d'Arsenal sur les derniers mois. Tiens, on en parlait hier, hein, Christophe. Ce que je veux dire, Arsenal, au début de l'année, alors encore une fois, c'était sur les premiers mois, mais moi, je me souviens de certaines victoires. La victoire à Arsenal contre le Bayern, on en a parlé hier avec Julien Laurence. Je veux dire qu'Arsenal, ils n'ont pas gagné que sur coup de pied arrêté, ce match-là. Hein. Ils ont été énormes. Contre le Bayern, qui était censé être la meilleure équipe d'Europe.
Et c'était un match de poule, c'est toujours la même chose.
Oui, bah d'accord, c'était un match de poule, mais n'empêche que c'est pour dire qu'Arsenal est capable de bien jouer au football aussi.
Merci, Christophe, d'être venu au 32-16. Damien, tu voulais rajouter un dernier mot ?
Oui, peut-être pour expliquer par rapport à ce qu'il disait. J'aime bien expliquer avec cette manière. C'est sur 200 corners qu'il y a eu, ça a été un but tous les 13. Ouais. Mais c'est comme si on joue au dé. En dé, on a une chance sur 6 d'avoir un 6. Mais on peut le faire au premier lancé ou on peut le faire au bout de 10 lancés. Et les corners, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce premier corner où... C'est pour ça que c'est très dur de prédire ce qui va se passer.
Il n'y a pas de vérité. Merci Damien d'être venu.
Merci Damien. Merci
Santa, spécialiste des coups de pied arrêtés qui a bossé à Nice ou à Lyon. Tu reviens quand tu veux, Damien. Ah, c'est l'alerte encore, Jérôme. L'alerte pour gagner jusqu'à 10 000 euros grâce à notre jeu. La liste des 26. Vous choisissez votre joueur.
C'est quand on le tire là.
Je crois que c'est demain qu'on l'ouvre, nous. Demain. Mais là, vous avez 5 minutes jusqu'à 19h32 pour envoyer liste par SMS au 732-16.
Il en reste plus beaucoup, des joueurs.
Liste au 732-16. Il en reste plus beaucoup. Il reste Mbappé, Cherki, Mateta, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Malo Gusto et Brice Samba. Donc c'est le moment de vous inscrire en envoyant liste
tous les joueurs que les gens n'apprécient pas. C'est bien.
Non, c'est pas ça. Dans un instant, Roten Examinateur. On va faire le bilan de la saison du Stade Rennais. Est-ce que le Stade Rennais a manqué d'ambition cette saison? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h33 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. La dernière demi-heure déjà, c'est passé vite avec Christophe Dugarry, avec Benoît Costil et avec Benoît Boutron. Dans 10 minutes, c'est le quiz de Louis Gervier avec un super cadeau à faire gagner.
Exactement.
Mais on va continuer à parler de l'actu du foot, Benoît.
Ouais, le cadeau est beau. Allez vous inscrire pour le quiz. Hein. Une enceinte portable Tamo de Lexon. C'est connectable à l'infini. Ça peut vous servir pour l'été lorsque vous serez entre amis, vous voulez mettre un peu de son, écouter de la musique. 32-16, touche 4 au quiz par SMS au 732-16. Tout de suite, on reprend les bonnes habitudes. Roten Examinateur, c'est parti.
Esteban Le Pen, qui marque pour le Stade Rennais, le meilleur buteur de Ligue 1, qui a une tête piquée magnifique. Trompe Geronimo Rulli.
RMC, Roten sans flamme.
Roten Examinateur.
Alors, peut-on se satisfaire d'une sixième place en Ligue 1? Rennes, qui était en lice pour une qualif directe en Ligue des Champions jusqu'à la dernière journée, a été éjecté du top 5 en perdant à Marseille. Du mouvement sur le banc, on vous rappelle que Francaise a succédé à Habib Bey à la mi-février. Une révélation dans l'effectif, c'est Esteban Le Poll, meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts. Écoutez le bilan dressé par Franck Hez au soir de la 34e et dernière journée du championnat.
Notre place, en tout cas, au bout de 34 journées, même si ça joue au goal average, c'est une sixième place. On fait partie des équipes, en tout cas, qui se sont battues jusqu'à la dernière journée pour de la 3 à la 6. Donc ça veut dire qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Et si on a aussi perdu des matchs, notamment contre des concurrents directs, c'est qu'il nous manque encore certaines choses, alors qu'ils peuvent être comblés par deux aspects. C'est le travail, la progression de l'équipe, la confiance dans ce qu'elle fait, et puis aussi par parfois quelques joueurs qui peuvent apporter un plus, même si je retire beaucoup de positifs, moi, sur les 3 mois que j'ai vécu.
Et justement, on rappelle que la première recrue a été annoncée, c'est Adrien Thomasson, le capitaine du RC Lens, qui s'est donc engagé avec le Stade Rennais. Roten Examinateur, est-ce que le Stade Rennais a manqué d'ambition cette saison 32-16
supporters? Donc, ils ont pas fait mieux qu'il a pas fait mieux qu'Abid Bey, alors?
Il a pas fait mieux. En termes de positionnement de classement Ligue 1, tout à fait.
D'accord.
Je pense qu'il a amélioré le vestiaire.
Non, mais je.
Il a amélioré la relation.
C'est vrai, on peut faire le constat comme ça, t'as raison.
Oui, on peut.
Non, mais c'est vrai. Après, il a amélioré.
Est-ce que vous êtes déçu par la saison de Rennes, Jérôme?
Écoute, je suis, déçu des premiers mois parce que je pense que Rennes avait voulu s'inscrire dans la durée avec cet entraîneur, avec Abid Bey, son staff et le groupe de joueurs avec pas mal d'investissements. Il fallait rattraper aussi les conneries faites avant.
Ouais. Il y avait un recrutement Ligue 1, Rongier, Merlin, des joueurs rompus au championnat.
Que t'es pas mal.
Ouais.
Si tu veux, il y avait des idées.
Ouais.
En effet. Alors après, il y a juste un vestiaire, sa vie aussi, et c'est ce qu'on reproche à Abid Bey d'avoir pas réussi à tirer le max de ce vestiaire-là en se mettant quelques joueurs et pas mal de joueurs à dos. Il a fait des choix, mais ça le regarde. Après, les choix, forcément, quand tu fais des choix forts, t'écartes des joueurs emblématiques ou des joueurs qui ont un statut de joueur leader et surtout le salaire qui va avec. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir les résultats, il vaut mieux que ça tourne bien. Et c'est vrai qu'il y a eu des résultats en dents de scie par moment et les mauvaises périodes lui ont coupé la tête. En effet, Francaise, il récupère donc un état de vestiaire qui est catastrophique, la vérité. Les mecs, il n'y a pas d'entente dans le vestiaire. Il y a peut-être un soulagement aussi de voir Abid Bey partir, parce que c'est comme ça que ça a été traduit par beaucoup de joueurs. Et puis derrière, les résultats sont remontés. Franchement, tu vois la partie Francaise quand il revient, où ils sont quand il prend l'équipe, ils sont à combien de points de l'OM? À 9 ou 10 points de l'Olympique de Marseille. Et qu'ils se retrouvent d'un moment avec 3 points d'avance, à 2 journées de la fin.
À une journée de la fin.
À une journée de la fin.
Et en fait, ils perdent à Marseille, voilà, au goal average, ils tombent à la 6e place.
Ça veut dire que sur la période de Francaise, il a repris quasiment 12 points. Plus de 10 points à l'Olympique de Marseille.
Si t'avais gagné au Vélodrome, et ben t'aurais terminé 3e de Ligue 1.
Donc c'est là-dessus, en effet, les ambitions sont revenues à force. Le vestiaire, je trouve que des joueurs, même sur la fin de saison et sur l'arrivée de Francaise, ont passé un cap. Ça a été beaucoup mieux. Même il y a plus de fluidité dans le jeu. Il faut reconnaître, même s'il n'y a pas eu toujours du spectacle avec Francaise, parce que je suis tombé sur certains matchs où t'avais mal à la tête quand même. Tu vois, j'ai le souvenir d'un match contre Metz où ils doivent absolument gagner chez eux. Ils n'y arrivent pas sur la fin de saison, en plus. Mmh. Et ce match-là, il leur fait mal. Donc, oui, il n'y a pas eu que des bonnes choses depuis que Francaise et le départ d'Abid Bey. Je vais pas te dire que c'est, on est passé de blanc à noir, ouais. Tu vois, ou l'inverse. Mais n'empêche que, la vérité, c'est que ce club va mieux, il s'est restructuré. Je trouve que ça avance dans le bon sens avec l'équipe dirigeante, avec le staff technique. Et ça, c'est important d'aller dans ce sens-là. Et c'est important d'avoir construit ça pour le futur. Donc moi, je vais te mettre une note de 13 sur l'ensemble de la saison, parce que quand même, ils font une Coupe d'Europe. Et
Ligue Europa grâce au fait que Lens ait gagné la Coupe de France.
Donc c'est un bon 13. Ouais. J'espère qu'elle s'améliorera l'année prochaine.
Benoît, toi l'ancien René, comment tu juges la saison alors?
Ah, c'était une saison un peu irrégulière, hein. Mais malgré tout, on se rend compte que Rennes n'est pas un club relativement instable. Ça bouge beaucoup, que ce soit les présidents, directeurs sportifs, entraîneurs. Malgré le club qu'on puisse imaginer un peu tranquille, etc. Il y a beaucoup de turnover. Et sur la saison, ça a été une saison où, voilà, tu finis sixième. Je dirais que t'es à ta place sur la saison. T'as la chance que Lens gagne la Coupe de France, donc qu'il puisse t'amener sur la Ligue Europa, donc c'est plutôt positif. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est pas toujours régalé. Malgré tout, c'est un club qui travaille très très bien. Je suis plutôt confiant sur la suite pour le Stade Rennais, avec Francaise qui connaît très bien la maison, qui connaît très bien le club, un Loïc Désiré qui est rempli de compétences, qui est un bon mec. Avec tout l'organigramme aujourd'hui, je pense que la saison prochaine, ils seront amenés à devoir être un peu plus ambitieux Même si je pense qu'en tout cas, au niveau de l'actionnariat, au niveau du propriétaire, il y a des ambitions qui sont au-delà de la sixième place, oui. Et qu'on aimerait plus se rapprocher de la troisième place et les places de qualification en Ligue des Champions que cette place en Ligue Europa. Mais en tout cas, c'est quand même bien pour le Stade Rennais de remettre les pieds en Coupe d'Europe. Et le public l'attendait et le public le mérite. Donc déjà, tu repasses par la Ligue Europa, c'est quelque chose d'intéressant. Mais sur voilà, moi pour moi, je leur mettrais voilà sur la saison un 14 quoi.
Vous savez combien de fois dans l'histoire du Stade Rennais les Bretons ont terminé sur le podium de Ligue 1?
Sur le podium?
Ouais, une seule fois.
Ah, j'allais dire
c'est arrivé
deux
une seule fois, saison 2019-2020. Dugas, comment non, tu la juges cette saison?
Non mais c'est pour ça que je crois que Rennes, saison après saison, est ambitieux. Chaque fois, ce club rennais, il affiche ses ambitions par des recrutements, par des choix stratégiques, par des changements de président, par des changements d'entraîneur, par plein d'idées. Mais à chaque fois, ça fait pchit. À chaque fois, ça fait pchit, ou très 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 souvent. Très très souvent, il y a à bout d'un moment, on sent que ça coince. Alors, et je trouve que ce club est beaucoup plus intéressant lorsqu'il ne montre pas son ambition. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive un petit poussé, et puis là on voit que ça perçoit, mais qu'au cours de la saison c'est pas trop mal. Mais dès que ce club montre un petit peu trop d'ambition avec des recrutements, avec un entraîneur un peu de renom, mais de suite ça se trompe. Donc malgré tout la saison elle est pas trop mal par rapport aux autres. Si on devait comparer par rapport aux autres, ils se retrouvent seulement à, comme tu le disais, à 2 points de Lille, 59 points sur la saison.
C'est le même bilan que l'OM.
Il devait imaginer. Oui, il devait imaginer faire beaucoup mieux, notamment à Marseille. C'est ce match de la fin où tu termines sur 3-0 sur un match qui est décisif. C'est celui-là qui te reste en travers parce que tu te fais exploser sur un match aussi important. Tu te fais exploser et tu mérites rien. Et à l'arrivée, ce match-là, il te fait dire que t'es à ta place, que t'es à ta place sur la saison. T'es juste en dessous de l'OM, même si t'as le même nombre de points. Ben, t'es à ta place. Mais c'est vrai que je trouve que ce club, il a du mal à montrer les muscles, tu vois, à montrer sa force. Et dès qu'il montre un peu les muscles, dès qu'il borce, qui bombe un peu le torse, je trouve qu'il a du mal. Il a du mal encore dans une saison quand même qui c'est très homogène où il y avait moyen et matière à faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Il y a quand même, je crois, il y a 8 défaites, je crois, 6 9. Nuls, un truc comme ça, ou je sais
9
plus
défaites,
exactement.
Ouais,
9 défaites, 8 9 nuls. Défaites, 8 nuls. Bon, alors ça a été beaucoup mieux avec Francaise sur les 3 mois là. Espérons que ça va continuer pour la saison prochaine et que ça va pas une nouvelle fois faire pchit, parce que là ils ont le sentiment quand même d'avoir trouvé un entraîneur de qualité, d'être sur une bonne dynamique, de bien travailler. Faudrait pas qu'une nouvelle fois l'année prochaine, je suis
ambitieux. Ils ont des moyens à disposition.
Ils doivent finir dans les 4 premiers.
Et voilà, ils ont des moyens. C'est ça qui est frustrant pour les supporters.
Dans les 4 premiers. Bien sûr. Le fou c'est que tu te rends compte.
Il y a tout.
Bien sûr. Vas-y Ben.
Pardon, ouais, avec tous les moyens qu'ils ont, et ça, bravo à l'actionnaire qui est un amoureux du Stade Rennais, et c'est une chance, hein, surtout dans la conjoncture actuelle, d'avoir un actionnaire si puissant, si fort, si passionné par son club. Mais tu te rends compte que malgré tout ça, il est super difficile de rentrer dans les trois. Ouais. Donc c'est la difficulté. C'est la difficulté pour le Stade Rennais, c'est de s'installer là-dedans, et malgré tous les moyens qui sont mis en place.
Et le paradoxe, c'est que si on regarde la photographie du classement final de Ligue 1, bon alors on va pas relancer le débat Pierre Sage qui nous a bien animé, allez écouter le podcast parce que c'était assez intéressant.
La trahison.
Pierre Sage qui pourrait pourquoi pas partir de Lens.
Intéressant, je suis pas sûr, mais ça a gueulé.
Moi aussi, c'est intéressant, c'est toujours un bon moment de radio.
C'est Benoît, et il a dit que c'était une trahison.
Si Pierre Sage s'en va, ça veut dire que le deuxième et le troisième de Ligue 1 vont changer d'entraîneur à l'intersaison, et même le cinquième. Donc on a 3 clubs du top 5 qui changeraient d'entraîneur à l'intersaison. C'est fou quand même.
Tu retires ton
site. Luis Enrique est pas au fond de ses
cartes. S'il y a une offre intéressante de Crystal Palace, il est parti. Hein.
Voilà, c'est ça. Exactement. Allez, dans
un
instant.
Il n'ira pas à Liverpool. Hein.
Tous contre Rotten, le quiz de Rotten sans flamme avec Louis Gerbier qui lui non plus ne signera pas.
Par contre, il a douté de toi, Dugas.
Non, pas douté pourquoi.
Ah, si, il a dit si TF1 t'appelle, tu nous quittes.
C'est vrai.
Non, mais regarde-moi droit dans les yeux.
Ouais. Bon. Mais
tu l'annonceras pas comme ça, tu viendras me voir quand même pour
je
me
dire. Je pense. Je t'appellerai toi. Non, mais j'ai pas envie d'y aller, moi d'ailleurs. Je suis bien avec vous.
En plus, bon, tant mieux.
C'est la meilleure dream team du pape.
Non, mais c'est du gars qui dit ça, tu vois.
Bien sûr.
Franchement, il n'y a plus de relation humaine dans ce.
Il y avait une émission au Maroc, à la rigueur, un peu similaire.
Bon, ça ne répond pas, va. Cache-toi, va. Ne réponds pas, fais exprès de ne pas répondre.
Allez, à tout de suite sur RMC pour le quiz.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h47 sur RMC. On est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On finit les 2 heures avec le quiz de Louis Gerbier. Un super cadeau à vous faire gagner. 2 auditeurs qui vont venir. Christophe Dugarry, Benoît Boutron. Et Benoît Costil sont bien là, une équipe Costil du Gary. Ouais. Ça gagne pas souvent, mais bon, ils vont essayer.
Les Girondins. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est les Girondins.
Ouais, c'est les Girondins, mais je sais pas dans quel état.
Ah bah c'est l'état National 2.
Allez, on va t'éclater encore. Allez, voilà.
Allez, on y va pour National le
plus. National 2 quand même. Tous contre Rotten.
Salut Louis Jarbier.
Salut l'équipe. C'est une bonne équipe de Ligue 2, quoi.
Le cadeau du soir. Maintien, enceinte portable.
Je joue pas les barrages chez New York.
De l'Exxon. Voilà. C'est New York à l'époque. Ni Nice. Le match à suivre ce soir. Bon, vous affrontez donc ce soir Hugo et Sylvain. Salut à vous deux.
Salut, salut Hugo. Monsieur. Salut Sylvain.
Sylvain, salut. Tu es supporter de l'OM. Tu veux jouer avec le reste du monde ou avec Jérôme?
Avec Jérôme.
Allez. Magnifique. Allez, et donc, allez, Hugo, supporter du Real, avec le reste du monde. Ok, allez. Hugo?
Oui.
Allez, Mamos. Oui. Il est content.
Il est content, Hugo. Oui.
Allez, Mamos.
Pourquoi j'ai appelé?
On va les taper, Hugo.
Ah, il a avec deux anti-madrilènes.
Ah ouais. Surtout du gars.
Tiens, puisque hier, deux chroniqueurs étaient présents hier et sont présents aujourd'hui, quel était le thème d'hier?
Du quiz?
Ouais. Ah, on va voir.
Et la finale.
Le quiz hier?
Ouais, juste hier. Vraiment, genre.
Du gars, c'était quoi
hier, le parcours du PSG en Ligue des Champions?
Oh, ah, il est fort.
C'est un point, ça?
Il est fort. Non, c'est pas un point.
Oh, bah quand même, donne-lui, non?
Non, vraiment pas.
Ça mériterait, je te le dis.
Ah, okay. Oui, ça mériterait parce que bon, c'était pas. Mais du coup, tu as fait d'une pierre deux coups. Tu as également deviné le quiz du jour.
Ah, donc on fait les mêmes thèmes.
Eh oui, bah attends, il y a eu plein de matchs.
Ah, okay.
Hier, on est allé jusqu'à Leverkusen. Okay. Toi, t'as pas bossé aujourd'hui.
Et le thème demain, ce sera.
Il rigole. Et il a refait les questions que j'ai lues. Et t'as toutes les questions que t'as pas posées hier.
Toutes inédites. Ah, t'étais au paddock tout l'après-midi ou quoi?
Non. Mais.
Vaut mieux pas, hein, parce que. Et... Comment il joue?
Merci. Et Benoît, demain, il y a de grandes chances que ça soit le même thème.
Ah, bah excellent.
Je vais essayer de faire.
Quelle originalité.
Tu devrais jouer avec Benoît aussi, tu vois.
Benoît Costil au paddock.
Ouais, vous êtes à peu près du même niveau.
Bah ouais.
Est-ce qu'il le paye, ce garçon? Là,
pas assez. Alors là, je vous jure.
On aurait pris quelqu'un d'autre, sinon du gars.
La doublette Gerbier-Costil.
Allez, on y va.
Tapia Coelho de.
Ça passe pas un de 25, ça.
Allez, question Cristobal.
Estoy muy, muy feliz et orgulloso de hablar contigo.
Habla contigo.
La pregunta Cristobal.
Habla. Voilà. Donc hier, on a fait Atalanta, Leverkusen. On continue. PSG Bayern, victoire des Bavarois en début de saison. Eh oui. Eh oui.
Ah oui, au parc.
Quel joueur a inscrit un doublé?
Luis Diaz.
Ou crack. Benoît Costil.
Bim.
Trop vite.
Allez.
Comment pas de le pour toi,
Jean? 1-0.
J'aurais aimé voir ça. J'ai attendu pourtant.
Je rigole, je t'ai bonifié.
Crack.
Trop vite, direct dans la vitre. Allez, question flash. PSG Tottenham, 5 buts à 3.
Ah oui.
Quel Français a inscrit un doublé?
Colomani.
Oh, je pensais vous coller là.
Ah, ça va trop vite, Benoît.
En fait, t'as pris la fiche Wikipédia de la saison européenne du PSG 25-26.
Oui. Non.
Et j'ai regardé les buteurs. Ça, c'est un bon quiz, ça.
C'est pas mal. Attendez, c'est pas ça. Question con.
Attends.
RMC.
La saison
européenne.
Vas-y, du gars, vas-y. Ouais.
Question con. Quel titulaire à Tottenham est un tueur à gages des cartels mexicains ou colombiens? Enfin, à une lettre près.
D'accord.
Ça sert à rien.
À Tottenham.
Alors, il y est dans l'affiche de la Ligue des Champions du PSG, celle-là, du gars?
Ouais.
Oh.
Attends.
Ah oui.
Attends.
Donc, déjà, comment on appelle un tueur à gages dans les cartels mexicains, colombiens?
Vicario!
Vicario, et oui, le Sicario.
2-1, et merci à Wikipédia.
Voilà.
2-1 pour le reste du monde.
Wikiniki, d'ailleurs.
Et voilà.
Question flash. Quel joueur étranger a mis un triplé?
Ah bah facile. PSG Tottenham.
Ouais.
Bah facile.
PSG Tottenham.
Ah oui.
Gonzalo Ramos.
Non. Il met jamais de triplé de sa vie.
Bah non, mais je sais pas.
Non mais le joueur qui l'a mis ce soir-là.
Ça rigole moins là.
Vitinha.
Ah, il est bon, il est fort.
Exactement. Deux.
Ah, deux fois.
Ah, bam.
2-2.
Bon allez, on a déjà bien bossé. Pause fraîcheur.
N'importe quoi. Allez, vas-y.
C'est la pause fraîcheur, on l'a dit, canicule oblige, bientôt la Coupe du Monde.
Ouais.
Question hors thème complètement. Quel club européen va connaître la deuxième division pour la première fois de son histoire?
Ah, pas mal ça.
Pas mal. Wolfsburg.
Magnifique.
Oh, bravo.
Ouais.
Ah ouais, chapeau.
Ouais, je l'ai vu tout à l'heure.
fait comme dans 3, les chiffres et les lettres. 2. Cette question vous était proposée par Valentin Yorca de Saint-Laurent-du-Var.
Ouais, exactement.
C'est vrai en plus. Contre quel club a fait contre quel club le PSG a fait son seul 0-0 de la saison en Ligue des Champions?
Ah ouais, ça c'était une belle merde. Alors,
Wikipédia, bim bam bim bam boum.
Ah, c'était contre depuis les toilettes de Benoît Costil.
Voilà. Il n'y a pas de réseau, mais il y a un iPhone. Crac, 3-3. Voilà.
Ah, là, il est branché.
Par contre, faut revoir ça.
Bah ouais, bim. Ah, putain, et c'est un beau quiz. Hein.
Question 3-3. Du gars.
Faites comme moi. Soutenez la fondation Alzheimer.
J'oublie tout. Cherche mon script, je fais des détours.
On pourrait faire venir jouer un jour.
J'oublie tout. Allez, nous écoute. Ils font le signe. Ouais. Quel champion du monde 98 a joué à Bilbao? Lizarazu.
Lizarazu.
C'est ça, c'est là. C'est Jérôme.
C'est Jérôme. Oui, Jérôme, c'est moi.
Et oui.
4-3 pour Jérôme et Sylvain.
Allez, Jérôme, Sylvain. Sylvain et. Pardon, à chaque fois, je peux avoir quand tu fais ça. Quel est l'autre défenseur français à avoir joué à Bilbao?
Ah oui. Ah, français.
Alors je français, je mets des guillemets.
Hugo et Sylvain, alors
il est à City en plus. Non, il est plus
il
à City.
Il était, c'est lui.
Ouais.
Il peut le.
Bravo. Bravo. Qui a dit à part
Hugo, c'est le mien, Hugo, c'est Hugo. Avec moi.
4-4.
Ah, il n'est pas avec moi là.
Bravo Hugo.
Oh, ah, ça peut être ça plus court.
Ah non, 4-4.
Oui, 4-4.
La bonne réponse vaut 3
quoi
points.
Qu'il arrive, c'est
dis-moi pas que c'est pas vrai.
Ouais.
Balle de match.
Allez, on va faire une balle de match sur une ultime bafouille.
C'est votre ultime bafouille.
C'est mon ultime bafouille.
C'est mon ultime bafouille, Marcel.
On parle donc de Bilbao. Mmh. L'ultime bafouille, c'est Dreadlocks. Hein. Williams. Bah oui, Nico Williams. Bah oui. Bonne réponse de Jérôme Rotten. Ouh.
La balle de match remportée.
Bah, je porte quoi. Bon.
Allez, salut.
Merci, merci Christophe Dugarry. Merci Benoît Costil. Et surtout bravo à Sylvain. C'est un bel indice.
N'importe quoi.
Bravo à Sylvain qui remporte ce magnifique cadeau.
Non, bah, la femme, j'ai trouvé.
Marque française d'objets design et connectés vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Merci à Louis Gerbier,
merci Louis.
Dans un instant, l'After Live en direct de Geoffroy Guichard avec Jérôme Sillon pour ce barrage aller d'accession à la Ligue 1
Jérôme Sillon.
Entre Saint-Étienne et
là,
Nice.
Ça va chauffer à Geoffroy Guichard.
Pensez écoutez, pour Alain Marchal.
Il est en stress. J'ai vu avec son moule bite et.
Soyez de bain.
Non, pardon. Écoutez, Alain, on vous embrasse. Je vous vois. En tout cas, bon courage pour ce soir. Restez bien à l'écoute d'RMC. Nous, on se retrouve demain. On continue à lancer la Ligue des Champions. C'est magnifique. La Rotten sans flamme à partir de 18h. On est de retour. Bisous, bonne soirée. À demain.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.